Alors, un petit rappel, si vous voulez bien, toujours pour nous ressouvenir où nous sommes, pourquoi nous sommes réunis. De quoi s'agit-il dans la société de Jésus couronnée d'épines? Alors, c'est tout simple. Le but, c'est de promouvoir la parfaite modestie chrétienne parmi les dames et jeunes filles. Tout simplement, cela égale à la fidélité aux grâces du baptême, de la confirmation et de la première communion. C'est on pourrait ajouter en France de la communion solennelle. Il y a deux moyens pour atteindre ce but. D'abord, union des âmes dans la charité, c'est important. Et deuxièmement, c'est la pratique de la modestie dans les habits. Il y a un petit engagement, c'est tout simplement la prière quotidienne de la prière que nous avons récitée tout à l'heure, Notre-Dame de la Sainte-Espérance, Ave Maria, Notre-Dame de la Sainte-Espérance, etc. C'est seulement ça. D'accord? Alors, si vous voulez bien, c'est un petit rappel. Si vous voulez bien, on va commencer notre conférence. Notre petite conférence. Notre papier. Alors, mesdames, mesdemoiselles, avant de présenter le titre et le plan de l'exposé, permettez-moi de vous lire juste deux citations, deux petites citations. La première, qu'on peut appeler « De première main », la voici. Nous constatons actuellement une dégradation des tenues vestimentaires chez nos fidèles, non seulement chez les jeunes générations, mais même chez les mères de famille et, encore plus désolant, chez les femmes plus âgées. Bien. Ceci vaut aussi pour les jeunes gens et les hommes. Pardon. Qu'on ne puisse pas dire que c'est toujours des pauvres dames, des jeunes filles qui sont toujours visées. Voilà. Égalité. Continuons. Alors, continue l'auteur de l'article. J'ai eu l'occasion, lors du serment du lundi de Pentecôte, il s'agit bien du pèlerinage de Pentecôte, l'année 2012. Alors, il faut indiquer la direction, bien sûr, Chartres-Paris. D'accord ? Chartres-Paris. Alors, j'ai eu l'occasion, lors du serment du lundi de Pentecôte, de rappeler l'importance de cette question de la modestie chrétienne. Bien. Dans l'autre pèlerinage, de Paris à Chartres, les femmes peuvent désormais arriver pour la communion en short et portant un débardeur. Alors, je n'ai pas trouvé le mot débardeur dans le nouveau Petit Larousse de l'année 1968. Peut-être que ça n'existe pas encore. Qu'est-ce que c'est?
C'est un petit poulard.
Les manches très courtes. Enfin, on voit
c'est un maillot de corps, si on veut. Un maillot de corps qui est en couleur.
Un jour de Marseille,
on voit toutes les épaules.
D'accord.
Comment les hommes.
Un jour de Marseille,
les hommes, en couleur. Voilà. Très collant et très décolleté.
Aïe. D'accord. Bien, merci beaucoup. Alors, en short et portant un débardeur tenu par deux ficelles, alors c'est encore plus, je pense. C'est mon seul. D'accord. Sans qu'il leur soit demandé d'aller se rhabiller. Si nous ne résistons pas, c'est bien à ces extrémités que nous finirons également par arriver. Alors, vous connaissez d'où ça vient, cette citation? Je vous aide. C'est bulletin officiel du district de la Fraternité. Laquelle?
Saint-Pétis.
Oui. Auteur, qui peut être?
À l'époque, il y avait quelqu'un.
Très bien. Tout simplement. Je voulais un peu développer, mais c'est lui. Voilà, c'est lui. Alors, c'est pas peut-être le même style aujourd'hui. Peut-être pas. Alors, une autre citation, si vous voulez bien, cette fois-ci, de deuxième main. Je ne sais pas si l'expression existe, de deuxième main. C'est une sorte de compilation de plusieurs récits. Bon, j'ai essayé d'être le plus strict, mais peut-être vous étiez là, vous avez enregistré ce sermon. Et si vous l'avez, je suis preneur. Un prêtre au pèlerinage à Notre-Dame du Puy, Pentecôte 2016, aurait commencé son sermon comme suit, plus ou moins. Chers fidèles, je ne suis ni tailleur, ni arpenteur, ou arpenteur, peut-être, c'est ça. Mais je voudrais féliciter, surtout les dames et jeunes filles, pour la plupart, voilà, pour une bonne tenue bien modeste. Par contre, les jupes de certaines pèlerines auraient peut-être besoin d'être quelque peu rallongées. C'est la deuxième citation. Ajoutons la troisième citation, si vous voulez bien.
C'est l'abbé Pinot.
Mais oui. D'accord, vous l'avez enregistré.
On l'a enregistré.
C'était plus ou moins ça. Vous étiez là.
Oui, j'étais là.
D'accord. Bon. Alors je demandais, c'est plus ou moins ça. Bon. Ajoutons la troisième citation, si vous voulez bien. Viendront des modes qui offenseront beaucoup notre Seigneur. Notre-Dame de Fatima à la petite Jacinthe. Alors le sujet de notre petit exposé sera Fatima et la modestie chrétienne. Est-ce que vous voulez le plan? Avec le plan, c'est toujours mieux. Vous êtes aperçu, il y a des tables, alors c'est mieux. Alors, il y a trois points.
Trois petits points.
Nécessité d'en parler, de la modestie.
Nécessité d'en parler.
Nécessité. Non.
Pardon. Excusez-moi, monsieur. Un peu gauche.
Ça va ? Deuxièmement. Deux aspects de la modestie.
L'un sera défensif. Le deuxième offensif. Sans vouloir offenser. Personne.
Troisième point, quelques remèdes contre l'immodestie.
Quelques remèdes
contre l'immodestie, pardon.
Excuse-moi, sinon ça n'a pas de sens.
Immodestie. D'abord, le premier point, la nécessité d'en parler. Le pape Pie XII disait souvent, le plus grand péché de notre génération moderne, qu'est-ce que ça pourrait être ? Est qu'elle a perdu tout sens du péché. Elle a perdu tout sens du péché. On peut dire la même chose d'une autre, je ne sais pas la source. Mais, bon, quelle est la plus grande victoire du Satan aujourd'hui, d'après vous?
Faire perdre aussi la notion du péché.
Non.
Il a tout enrobé.
Voilà, c'est ça.
D'après, c'est bien présenté.
Continuons, toujours Pie XII. Beaucoup de femmes cèdent à la tyrannie de la mode. Tyrannie de la mode. Même si elles sont immodestes, elles y cèdent. Elles ont perdu la notion même du danger. Elles ont perdu leur instinct de modestie. Instinct de modestie. Le vêtement indécent est devenu la norme. Bon, c'est pas compliqué, il suffit seulement de sortir à l'extérieur. Le vêtement indécent est devenu la norme. Même parmi les catholiques pieux et de bonne volonté, il y a beaucoup d'ignorance. On ne dit pas que tout le monde le fait par malice, mais il y a beaucoup d'ignorance. En ce qui concerne la modestie catholique véritable. Mais rappelons, c'est un petit rappel, qu'est-ce que c'est la modestie? Qu'est-ce que c'est la modestie? Alors, saint Thomas d'Aquin, vous vous souvenez bien, nous dit que c'est une vertu morale, une partie de la vertu de, d'après vous, tempérance, ça doit tempérer quelque chose, ça. Bon. Qui aide l'homme à garder la modération, c'est-à-dire observer le mode, pas la mode, mais le mode. C'est bon. La question de l'article, mais ça, c'est pas la même chose. Le mode. D'où le nom de modestie. Modestie. Voilà. Il s'agit d'observer le mode, pour toutes nos actions. Pour toutes nos actions. C'est tout simplement, c'est de garder un juste milieu. Un juste milieu. Pour la modestie, bon, c'est très facile de comprendre. Il y a un moyen entre un soi-disant un sac à patates, ou pardon, un sac à pommes de terre, et une mini-jupe, même pour la mesure. Voilà, c'est le milieu. Bon. Alors, cette vertu, la modestie, nous aide à garder nos faits, nos gestes, sous le contrôle de la raison. Sous le contrôle de la raison. Voilà. Et dans son sens moderne, bon, la modestie correspond à la vertu de, vous souvenez, de pudeur, par laquelle on ressent de la honte à se montrer nu, même partiellement en public. Voilà, les débardeurs. Attention, les débardeurs. Je répète une petite histoire, une petite anecdote, c'est de Mgr Lefebvre et de son séminaire. C'est cette vertu de pudeur qui poussait Mgr Lefebvre, par exemple, à exiger de ses séminaristes d'être toujours revêtus de la soutane, même si ce n'était que pour quitter leur cellule quelques minutes au milieu de la nuit, pourquoi faire, pour aller à la toilette. Oui. C'est la même chose au couvent. Il faut donc parler de la modestie, non seulement aux séminaristes, mais aussi aux laïcs. Entre parenthèses, bon, c'est très frappant que dans la crise, bon, je pense que vous n'êtes pas au courant quand même, qu'il y a une crise dans la crise, crise dans la crise, peut-être encore une crise, je ne sais pas. Bon, c'est un peu comme des poupées russes. Des russes. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à réfléchir qu'il y a un problème en voyant justement les changements par rapport à la modestie. C'est pas seulement que les gens s'habillent comme tout le monde, comme le monde, mais que le prêtre ne dise rien. Le prêtre ne dise rien, ne dise plus rien. Bien sûr, il y a des exceptions. Je dis pas que tout le monde est comme ça. Mais il y a une tendance générale de ne pas faire peur. De ne pas faire peur. Vous pouvez me raconter quelque chose de Marigny ensuite.
Oui, puis j'ai une autre anecdote qui m'a été rapportée.
Et qui est... Dites.
C'est une fidèle d'un prieuré qui a fait la remarque au prêtre que les tenues étaient de plus en plus immodestes. Et le prêtre lui a répondu qu'il y avait eu beaucoup d'affiches pour demander justement une tenue modeste, que ça ne faisait rien du tout, donc c'était un peu... on abandonnait un peu le combat. Et puis il lui a répondu une phrase qui est celle-ci, « Et puis je ne veux pas passer pour un rabat-joie ».
Oui, c'est voilà. Important, mais il faut être positif.
Voilà, mais le rabat-joie, il le sera pour la Sainte Vierge. Pour la Sainte Vierge, il le sera, le rabat-joie, parce qu'il va rabattre la joie de la Sainte Vierge qui, malheureusement, verra des adultères dans le cœur de certains hommes ou d'adolescents. Elle verra peut-être des adultères concrets qui vont se passer. Et elle verra aussi des vocations qui vont se perdre, parce que les jeunes filles, les jeunes gens auront les idées ailleurs, quoi.
Ils ont donné la communion à une jeune femme, les jupes largement au-dessus du genou, décolletées comme ça, sans rien sur la tête et enceinte de surcroît. Bon. Et bien, ils ont donné la communion. Ils ont peur. Mm-hmm. Ils ont peur. Ouais. Ils ont peur de faire partir, mais le résultat c'est qu'ils partent, au contraire, ils partent, parce qu'il n'y a pas de différence maintenant entre les Saint-Pierre, où ils font n'importe quoi. La messe est toujours une église à 10h, donc ils perdent de toute façon leur... Plus c'est laxiste, plus ils perdront. Ils ne se rendent pas compte.
Bah, les meilleurs vont partir.
Justement, ils perdent.
Moi je suis partie,
de toute façon ils sont perdus. Continuons, si vous voulez bien. Nous passons au deuxième point avec deux aspects de la modestie. Mais d'abord, la citation. Qui donnerait au vêtement actuel ne serait-ce qu'une ombre de la modestie de ceux que nous portions alors ? Qui pourrait le dire ? Bon, c'est un peu difficile de le deviner. Mais Sœur Lucie, dans le témoignage sur les apparitions de Fatima, du père de Marchi ou Marquis. Et elle continue. Sur le vêtement. Le vêtement ne nous a pas été donné par Dieu comme un ornement au service de la vanité et de la légèreté humaine, mais bien comme une défense contre le péché, comme un signe de pénitence et de châtiment, je vais expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire, pour le péché commis, et pour qu'il nous rappelle les lois de Dieu que tous nous devons accomplir. De plus, le vêtement modeste avec lequel nous devons nous couvrir est un signe distinctif qui nous distingue dans l'immoralité régnante et par lequel nous donnons un véritable témoignage de notre Seigneur. C'est par rapport à la pénitence, parce qu'on ne comprend pas peut-être de quoi s'agit-il. Alors, en quoi, c'est toujours celui-ci, en quoi il est signe de châtiment et de pénitence à cause du péché, et comment il est une défense contre les tentations, le vêtement. Alors, il s'agit toujours d'Adam et Ève. Voilà. Le texte sacré nous dit qu'après le péché, Adam et Ève cherchèrent à se couvrir des feuilles de figuier. Mais Dieu n'a pas trouvé suffisant ce vêtement, car il fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les envêtit. Des tuniques. Intéressant. Ce ne sont pas des branchages. Branchage camouflage, c'est pas ça. Il y a des tuniques. Des tuniques, c'est intéressant.
C'est pas la même chose.
Mais non. Continuons.
Ça peut être convenable.
Continuons. Bien. Alors, avec cette Lucie, nous allons voir les deux aspects de la modestie chrétienne, l'un offensif, l'autre défensif. D'abord, l'aspect défensif, c'est que la modestie chrétienne aide à éviter d'être une occasion de péché. Ce que vous avez dit. Voilà. Combien de jeunes filles, a dit Pie XII, qui ne voient aucun mal à suivre certains styles honteux, comme des... Je cite le pape, comme des moutons. Il dit comme des moutons. Elle rougirait certainement si elle pouvait deviner l'impression qu'elles font et les sentiments qu'elles éveillent chez ceux qui les voient. Alors vous connaissez tout simplement la question de la mesure de Saint Curé d'Ars. Qu'est-ce qu'il disait ? Compliquez pas les choses. Une juste mesure, c'est au-dessous. Sous du genou. Et pourquoi il disait comme ça ? Parce qu'il était confesseur. Il savait bien comment ça marche. C'est pas seulement la question si c'est au-dessus ou au-dessous, mais comment ça marche sur les hommes. Quelle impression ça donne. Continuons. Notre-Dame de Fatima a dit à la petite Jacinthe : certaines modes viendront qui offenseront beaucoup notre Seigneur. Ceux qui servent Dieu ne devraient pas suivre ces modes. L'Église n'a pas de mode. Notre Seigneur est toujours le même. Bon, ce n'est pas seulement le fait d'offenser le bon Dieu, voilà, par le port d'un vêtement immodeste. sauf signe de péché contre la charité vis-à-vis de notre prochain. Écoutons saint Thomas d'Aquin. Le bien de notre âme est plus important que celui de notre corps. Vous êtes d'accord? Et nous devons préférer le bien spirituel de notre voisin à notre confort matériel. Vous voyez, c'est toujours spirituel qui est au-dessus du matériel. C'est pour cela que Pidose disait que, citation, « Si certains genres de vêtements deviennent un grave danger pour le salut de l'âme, c'est notre devoir de l'abandonner. » Notre devoir de l'abandonner. Mais une objection pourrait y être posée, j'écoute. Qu'est-ce que répondrait la jeune fille, la tradition ?
En certaines occasions, peut-être.
Non, non, elle dirait une autre chose. Je pense. Alors, j'imagine, une objection pourrait être posée. Mais moi, je n'ai pas d'intention d'induire quelqu'un dans le péché, n'est-ce pas ? Je n'ai pas cette intention. Si jamais, c'est sa faute, ce n'est pas la mienne. Attention, attention. Bon, d'accord, vous n'avez pas cette intention. Voilà, vis-à-vis de ce jeune homme, ce monsieur, mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas tromper la nature. On ne peut pas tromper la nature. Important, c'est un aspect psychologique. Si les hommes sont plus forts que les âmes physiquement, d'accord ? Normalement. En ce qui concerne la sensualité, ils sont plus faibles. Voilà, c'est le sexe faible. Si le devoir de l'homme est d'utiliser sa force supérieure, non pour faire du mal à la femme, mais plutôt pour la protéger et la défendre physiquement, c'est le devoir de la femme d'utiliser sa force, c'est-à-dire par sa conduite et par son vêtement, aider l'homme à rester chaste. D'accord, vous voyez l'argument ? C'est bon. Les femmes sont gardiennes de la chasteté pour le monde. Gardiennes de la chasteté pour le monde. Et vice-versa. Bon, c'est pour les messieurs, s'ils vont écouter par hasard cette conférence. Vice-versa, les hommes chrétiens devraient avoir conscience que les femmes se vêtent, si pas souvent, parfois,
pour leur plaire.
Voilà. Par désir de plaire aux hommes. C'est dans la nature féminine. Bon. Si on garde cette mesure, il n'y a pas de difficulté. Mais souvent, on dépasse cette mesure. Donc, les hommes, ils doivent, par exemple, ne pas exprimer par parole, regard ou autrement une approbation de l'apparence des femmes qui se vêtent d'une manière qui déplaît au bon Dieu. D'accord ? Ne pas encourager. Au contraire, par exemple, il peut être utile de complimenter celles qui se vêtent avec la mesure due. Encouragez. On comprend très bien, elle rame contre le courant. Peut-être bientôt contre le Coran. Bon, peut-être je parle pas trop. Oh non, pas là-bas, non, je pense pas qu'il y a des problèmes, justement.
Non, mais là,
là-bas, non. Comment
ça va être réglé, là ? Je connais sa fonction, je savais.
Bon. Alors vous voyez, c'est tout simple, c'est l'entraide entre la femme et l'homme. L'entraide. Bien. Ça va pour le premier aspect ? D'accord ? Défensif. Mais il y a aussi offensif. Sans vouloir pour autant offenser qui que ce soit. Deuxième aspect de la modestie. Cette fois-ci, on passe à l'attaque. Mais de quelle attaque il s'agit ? C'est de vouloir se vêtir non plus dans le but de rechercher sans plaisir et sans confort personnel, mais pour édifier le prochain, et surtout pour plaire à Dieu. De se comporter en vrai temple de la Sainte Trinité. Vous connaissez l'inhabitation de la Sainte Trinité, voilà, dans notre âme. Alors tout simplement, il faut être hospitalier vis-à-vis de notre divin hôte de notre âme. Alors, dans notre langue polonaise, il y a une expression bon, qui se rend très mal en français. C'est plus ou moins « hôte à la maison, Dieu à la maison ». Je pense qu'en français, on dit « l'hôte est l'envoyé de Dieu ». je trouvais cette expression. L'hôte est l'envoyé de Dieu. Est-ce que vous connaissez?
Non.
Très bien, je sais découvrir.
L'âme, comment dire, Dieu, il s'installe dans notre âme.
Si on est en état de grâce, voilà, il habite, c'est la très sainte Trinité.
Nous sommes la résidence de Dieu.
Ah ben oui. Le temple. La résidence. Bon, je préfère le temple, la résidence. Bon.
Oui, ça fait un peu matérialiste. Bon.
Bien. Bon, sans doute, cela veut dire que cet aspect offensif peut signifier beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Bien. Intérieur, par exemple, parce qu'on a d'autres désirs personnels, d'autres habitudes, mais aussi extérieur, parce que bon, tout le monde ne comprend pas. Il y a des plaisanteries, des mondains et des mondaines. Voilà. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est crucifié. Qui est crucifié. On continue. Bon, on nous parle beaucoup de la dignité humaine. Bon, peut-être pas au couvent, mais avec le pape François, de la dignité, maintenant, dignité féminine, avec cette idée de diaconesse qui est tout à fait aberrante, parce qu'il ne s'agissait pas historiquement de cette question-là. Bien. Mais justement, le vêtement modeste respecte mieux le corps féminin. Le vêtement modeste respecte mieux le corps féminin. On peut même dire que dans un certain sens, le corps de la femme est plus sacré que le corps de l'homme. Pourquoi ?
Il porte l'enfant.
Tout simplement. Parce que le corps de la femme est capable de donner la vie, un nouvel être humain, créé à l'image de Dieu, animé d'une âme immortelle, qui durera toute l'éternité. Le corps masculin n'est pas conçu pour cela. Je pense qu'on n'a rien inventé. Bon, on a vu beaucoup de choses, mais on n'a pas inventé ça. Que Dieu nous en préserve. C'est pour cette raison que les robes sont beaucoup plus convenables pour les femmes que les pantalons. On répète, mais bon, c'est toujours bien de répéter. Les robes recouvrent la forme de la femme, voilà, et voilent son intimité, où une nouvelle vie humaine vient au monde. Ce que le pantalon ne peut pas procurer, ne peut pas garantir. Par sa nature, le pantalon fait ressortir la silhouette féminine. Au lieu de la dissimuler, il la met en valeur. Bon, c'est exprès, mais bon. Mais laissons souffler quelques instants les dames et jeunes filles, et disons que le vêtement modeste n'est pas seulement réservé aux femmes. Tous les chrétiens, hommes et femmes, et même les enfants. C'est important. Même les enfants doivent se vêtir avec la dignité qui convient. Notre façon de nous habiller est notre langage. Nous exprimons non seulement que nous sommes hommes et femmes, mais aussi par le vêtement nos croyances et nos convictions. Voilà, je suis religieux de l'ordre dominique. Je ne suis pas carme, c'est comme ça. C'est le bon Dieu qui a choisi. Cela fait vraiment pitié, par exemple, de voir des prêtres de l'église conciliaire aller en soutane, voilà, sans soutane, surtout ceux qui sont âgés, qui ont dû quand même connaître comment c'était avant, comment c'était autrefois. Bien. Une belle citation très importante de Pylose, je vais la dire deux fois ou doucement. Les modes reflètent les coutumes d'un peuple. Les coutumes d'un peuple. Elles expriment la décision et la direction morale qu'une nation a l'intention de suivre. Elle exprime la décision et la direction morale qu'une nation, c'est pas moi, c'est plus ça, qu'une nation a l'intention de suivre. Soit d'être englouti dans la luxure, ou se maintenir au niveau auquel elle fut élevée par la religion et la civilisation. Oui, c'est important. C'est important. C'est pas quelque chose que moi je me vête comme ça. Bon. Ça s'arrête pas seulement à moi. Vous voulez que je la répète? Je la répète? Très bien. Les modes reflètent les coutumes d'un peuple. Elles expriment la décision et la direction morale qu'une nation a l'intention de suivre. Alors il y a du choix, choisissez. Soit d'être englouti dans la luxure, ou se maintenir au niveau auquel elle fut élevée, par la religion et la civilisation. Donc, en adhérant à la forme traditionnelle de vêtements, cela veut dire pantalon pour les hommes, robe pour les femmes, les catholiques auront un effet positif, moralisateur sur les païens qui les entourent, même si ceux-ci se moquent. C'est pas grave. Un exemple pour les enfants, et pas seulement pour les enfants, je pense. À l'âge de 10 ans, Jacinthe de Fatima, elle devait subir une opération à l'insistance des docteurs. Bien que l'anesthésie de cette époque, en aucun cas, n'atténuait sa douleur, c'est pas beaucoup de choses, pas une grande différence, elle souffrait davantage de l'humiliation d'être exposée, elle souffrait davantage de l'humiliation d'avoir exposé son corps. Que de la souffrance physique. Un petit enfant de 10 ans, quand même. Excusez-moi. Eh bien, quelques remèdes, si vous voulez bien. Contre l'immodestie. D'abord, des remèdes naturels. Il faut être d'abord, je pense, naturel, parce que la grâce se plante sur la nature. Si la nature n'est pas bonne, c'est difficile. C'est presque impossible. D'abord, quelques remèdes naturels. Donnez un bon exemple, surtout dans les lieux saints. Y commencer. Commencez d'abord à l'église. Dieu premier servi, Dieu premier respecté. Aussi, toujours naturel, un remède naturel, inculquer aux enfants, voilà, la modestie, le soin de la modestie, en les habillant presque comme les adultes, tant que possible, comme les adultes. Et pourquoi? Pourquoi comme ça?
Pour leur donner le pli.
Pour leur donner
l'habitude.
L'habitude, voilà. Ensuite, c'est plus simple, ça suit. Bon, ensuite arrive l'âge, un peu de la crise, mais bon. Mais ensuite, elle pourrait revenir. Mais si elle n'a jamais senti justement que les genoux couverts, bon, elle n'a pas à quoi revenir. Hein. Vous voyez? Bon.
Et alors, il faut une conversion.
Voilà. Mais bon, essayons de faciliter des choses. Est-ce surnaturel? Remède surnaturel? Bon, ce sont tous ceux qui ont été donnés par Notre-Dame de Fatima. D'abord, comme aujourd'hui, dévotion à son cœur immaculé, premier samedi. C'est de bien dire le chapelet, de faire des sacrifices. Voilà. Ça ne se voit pas, mais c'est aussi efficace, plus efficacement. Et surtout important, on a vu la dernière fois avec Saint François de Sales, il ne s'agit pas seulement de dire, de rappeler, etc. C'est important d'avoir soin de notre vie spirituelle et de la vie spirituelle de ceux qui nous sont confiés, de vos enfants, de vos petits-enfants. Oui, parce que je pense que c'est un peu, on peut dire qu'une certaine relation entre la vie spirituelle, qu'il soit profonde ou tiède, et immodestie et modestie. Oui, je pense. Bien. Je finis notre petite conférence, elle n'est pas très longue. Je me suis trouvé dans le temps. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette conférence? Oui, très bien.
Des questions, non, mon père, mais
oui.
pour revenir par rapport à ce que vous avez dit en dernier. Oui. C'est vrai que si les filles cherchent à plaire,
oui.
à savoir si elles veulent plaire au bon Dieu ou aux autres,
oui.
eh bien, quand on veut plaire, c'est qu'on veut aimer et être aimé, eh bien, mmh. aimer le bon Dieu, quoi.
Voilà.
Développer cette vie intérieure.
Voilà.
Pour l'amour de Dieu.
Alors qu'il faut bien comprendre la question de la... de la charité. Je pense au Père Marie-Dominique qui en a parlé, je pense, à son sermon sur les apparitions de l'ange. Alors, vous savez bien que l'an prochain, c'est l'anniversaire, le centenaire des apparitions de Fatima, mais cette année, c'est le centenaire des apparitions des anges qui sont très importants parce qu'ils préparent. Ils préparent des apparitions. Si vous avez l'occasion, relisez bien. C'est important. Il y a trois choses qui sont bien parlantes. C'est la prière, le sacrifice et la communion. Voilà, ce sont trois choses qui préparent les apparitions de Fatima, de Notre-Dame. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Je perds le fil.
L'amour de Dieu et la vie.
Voilà. Alors, ce qu'il disait, en fait, il faut aimer Dieu dans le prochain. D'abord, Dieu est déjà là, par exemple, dans notre prochain qui est déjà en état de grâce, ou bien... Et vouloir que Dieu soit dans le prochain. Oui. Vouloir que Dieu soit dans le prochain. Et si on aime vraiment aussi, bon, prenons le cas d'une jeune fille qui veut plaire à un autre, tout simplement, qui veut aimer le bon Dieu dans un autre. Mais je pense, ça se sent, je ne pense pas que ce soit insensible, parce qu'on peut plaire à un autre de plusieurs manières. De plusieurs manières, oui. C'est peut-être plus ou moins pur, vous voyez. La question est plutôt là. Oui. Voilà. Et je pense que les jeunes filles ils comprennent très bien les réactions de jeunes hommes en fonction de la longueur de leur jupe. Voilà. Elles voient bien que le regard n'est pas le même. Pas le même. Alors il y a quelque chose qui a changé, attention. Bon.
Est-ce qu'il y a des messieurs qui veulent... femme soit à la mode, ça existe.
Oui, c'est un autre problème. C'est pour ça que je pense que c'est important de parler aussi des messieurs, pas seulement qu'ils s'habillent comme il faut, mais aussi qu'ils remplissent bien leur fonction des époux et des pères. Et des pères. Je pense que le problème aussi là, notre ennemi a bien joué. C'est pas seulement, alors on fait un renversement, c'est diabolique, parce que diabolo, ça veut dire renverser. Il change les rôles. Il change les rôles. Voilà. Alors, les hommes deviennent, excuse-moi d'expression, efféminés, c'est dit comme ça, mm-hmm. et les femmes viriles. Mais ça ne marche pas parce que ce n'est pas selon leur nature. Selon leur nature. Vous voyez, c'est un problème qui est très complexe. Très complexe. Oui. Il faut parler avec ce monsieur. On peut pas, la femme ne doit pas accepter justement qu'elle s'habille n'importe comment parce que son mari lui.
Oui, mais je pense à quelqu'un de ma famille, si vous voulez. Bon, ils sont descendus et le père de famille ne dit rien du tout. Quoi. Les filles. Son épouse et ses filles ont des jupes de plus en plus courtes et ne disent rien. C'est pas.
Bah c'est peut-être qu'il est minoritaire dans la famille.
Mais c'est parce qu'il n'y a plus d'autorité. Hein.
Voilà, une
il ne trouve pas que ce soit mal, je ne pense pas, c'est ça.
Il n'a pas eu le sens de
bon, ça, il faudrait creuser. Bon.
Ouais, il faudrait que.
Il faut creuser, ou bien l'envoyer au confessionnal. On verra de plus près.
Ouais, bah, il ne va pas venir ici, il va plus vivre chez les modernes.
Bon. Bon, là-bas, il n'a pas de grand soutien, ils n'ont pas de grand soutien là-bas. Bon,
ouais. Mais nous, on se dit.
À mon avis, il faut expliquer. Bon, si y a vraiment papa, il faudrait. Bon, je pense que tous les papas, tous les mamans ont un soin. S'ils gardent bien, s'ils veulent remplir bien leur fonction de papa, ils ont soin, l'amour de leurs enfants. Alors, je pense qu'ils pensent, par exemple, à l'avenir de leurs enfants. Alors, ils pensent, un exemple un peu bête. Mais bon, c'est tout petit peu, on peut comparer avec un pêcheur, qui fait la pêche. Alors, en fonction des poissons, il y a des appâts différents. Alors, en fonction que la jeune fille s'habille, elle va attraper les poissons Différente, différente. Mm-hmm. Oui, bon.
Enfin, pour l'instant, sa fille, elle n'est pas trop mal tombée, parce que c'est quelqu'un qui devait être... Vous savez, les mouvements du pape, il y a...
Gégé.
Oui.
Ah, qui est en Pologne encore, d'accord. Je ne peux rien faire. Oui, pardon, je vous entends.
Oui. Donc, pour l'instant,
alors, vous avez suivi plusieurs conférences, n'hésitez pas à de noter quelques arguments et la prochaine fois de lui en parler.
En fait, c'est parce que voilà, c'est quelqu'un, moi je connais, bon, c'est quelqu'un de ma famille, hein, oui. Moi, pas le monsieur, mais son épouse.
Oui.
Et j'ai essayé de la convaincre, il n'y a pas moyen, quoi. Bon, pourtant, elle est allée chez les mères, elle me dit oh, mais c'est pas le plus important. Important, oui, c'est d'avoir des... Enfin, je ne sais pas, de garder la foi. Voilà.
Bon, à la fin, on va finir comme le pape François. Le plus important, c'est l'amour. Mais qu'est-ce que c'est l'amour, hein? Qu'est-ce que c'est l'amour, hein? Bon, il y avait un évêque en Pologne qui était... Bon, heureusement, bon, il est mort. Bon, je ne sais pas, raison, malheureusement. Et qui disait aux jeunes, qui donnait la citation de Saint-Augustin. Saint-Augustin, mais sans explication. Alors, aimez-vous et faites ce que vous voulez. Mais imaginez ce que ça va donner aux jeunes. Qu'est-ce qu'ils comprennent de l'amour? Ils disaient comme ça, voilà. Aimez-vous, faites ce que vous voulez.
Oui, évidemment, le champ est large maintenant. C'est des réflexions qu'il ne faut plus prendre comme ça, parce qu'il y avait sans doute des phrases avant et des phrases après.
Mais il faut qu'on aille expliquer ce que c'est l'amour. Hein, ce que c'est l'amour, hein. Si on aime vraiment le bon Dieu, on est animé, on est poussé par un vrai amour. Mais si on aime quelqu'un d'un amour qui est concupiscence, bon, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Bien. Alors, s'il vous plaît bien, une petite anecdote, s'il vous plaît bien. C'est bien que vous n'avez pas de parapluie, il ne pleuvait pas trop. Un cardinal est un jour invité à un grand repas. En cette soirée mondaine, la maîtresse de Séan, qu'est-ce que c'est avec Séan?
De des lieux, la maîtresse de Séan.
D'accord, Séan.
C'est le lieu, de l'endroit.
D'accord, très bien. Avait revêtu une robe qu'elle croyait élégante, offrant et provoquant décolleté. Vous connaissez ça?
Je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
Qui connaît encore? Bon, je finis. Alors, au dessert, les fruits arrivent sur la table. Son éminence prend une pomme et l'offre à son hôtesse. Lui disant, c'est quand Ève eut pris la pomme qu'elle vit qu'elle était nue. Bon, il faut être éminence pour le dire, parce que ça ne pourrait pas marcher avec tout le monde.
Il n'y a pas la suite, on ne sait pas si elle a compris.
La réaction de la madame.
Ça, c'est secondaire.
J'espère
que oui, quand même. Alors, une autre chose, alors on a reçu un petit message, je ne donne pas le nom. Voilà. Bon, j'ai écouté la dernière conférence, patati patata. Demandons de l'aide ou des conseils pour des amis. Alors, j'ai pensé que le papier ci-joint pourrait aider. Il s'agit d'une explication extrêmement simple sur comment coudre une jupe provençale. Que la mère de Brignoles donnait aux parents au bon vieux temps.
Donnait. Ça veut dire que ça peut être donné. Mmh.
Et maman me l'a passé, je pense, parce qu'il n'y a pas d'accent. J'espère qu'il serait utile. Alors, si vous voulez bien, bon, c'est tout simple. Je ne sais pas, il y a quelques morceaux qu'il faut reprendre. On a vu, c'est simple.
Oui, oui.
Je peux faire moi-même, peut-être.
C'est très simple.
Oui, vous connaissez?
Oui.
Bon. Et je mettrai dans la prochaine lettre circulaire pour cette lettre. Très bien. Alors, pour les prochaines fois, si vous voulez bien, quand on s'était annoncé, parce que je préférais de prendre la conférence sur Fatima, parce que c'est bien, ça nous prépare tout petit peu, ça nous met un peu dans l'esprit marial de Fatima pour nous préparer à l'année prochaine. Mais pour la prochaine fois, si vous voulez bien, on va prendre, bon, c'est un petit rappel pour celle qui était déjà là, c'est un petit travail, un petit dossier, une brochure sur les enseignements pontificaux. C'est en fait le problème moral et pédagogique de la mode, selon le pape Pie XII. Alors, ça serait bien, bon, on voit de temps en temps les citations de Pie XII, mais je pense que c'est bien d'avoir une chose de plus systématique. C'est mon Pie XII. Alors, suivez bien, on va le travailler. Ça va? Ça vous convient? Est-ce que vous voulez fixer la date de la prochaine fois? Je vous écoute.
Dans combien de temps?
Dans une semaine.
Comment?
Dans une semaine. Est-ce que ça vous convient, d'abord, cet espacement du temps que vous voulez faire plus souvent?
La dernière était...
Bon, non, voilà, on a été, ça fait longtemps. Est-ce qu'il y avait un petit empêchement?
Ah oui, oui.
Ça dépend de vous, parce qu'on a fixé une fois par trimestre. Oui. Mais si vous voulez faire plus souvent, bon, je pense qu'on peut. Bon, je propose qu'on pourrait peut-être se voir une fois sur deux mois. Mais si on pourrait travailler mieux, ça sera toujours un peu dans la mémoire. C'est quand
même. Avant mi-décembre. Hein.
Comment?
Avant mi-décembre.
Alors qu'est-ce qu'on a maintenant? Comme ça? Ça vous convient? D'accord.
On se rappelle, mais dans deux mois. Quoi.
D'accord.
Il y a quelque chose à pousser.
Alors, ça sera le 3 décembre.
Oui.
3 décembre?
Oui.
Bon, je vais.
Moi, j'ai les choses qui peuvent être.
Ça fait 3 et 10.
Alors, qui est pour 3? Qui est pour 3?
Moi, je suis pour tout.
Oui, moi aussi.
Pour 10, hein. Mais pour 10.
Ouais, les samedis de décembre, c'est très compliqué pour nous.
Comment?
Les samedis de décembre, on est très peu disponible en fait. Ah, donc, oui. C'est ça. Donc, c'est pas n'importe quel samedi en décembre, je vais être embêtée.
Ça peut être un autre jour, ça dépend de vous.
On, parce que oui, on peut se plier. Par exemple, la vente ici, l'école.
Quand ça?
Le dernier jour avant.
Le premier dimanche de l'avant?
Le 26.
Ah non,
le premier dimanche de l'avant est au début septembre.
Est-ce que c'est
le 27 novembre? Moi, je pense que c'est...
Parce que Pâques est en... Noël est en quoi, un dimanche cette année, non?
Oui.
Donc, il y a bien 4 semaines complètes. Donc, on va être...
Oui.
Oui, alors, je vous écoute. Honnêtement, ça jette un peu ce que ça... Oui.